dis, Mimi, tu viens à la piscine avec moi ?
Ah non, je peux pas, j'ai agité du local.
Et c'est sur l'autre radio.
L'égalité, elle n'est pas un cadeau, pas une habitude, plutôt une bataille discrète, une entaille dans l'habitude, un grain de sable dans la mécanique bien huilée du « c'est comme ça ». Elle gratte, dérange, force à regarder autrement. Elle vacille entre ceux qui ont la parole et ceux qu'on n'écoute jamais. Elle n'est pas donnée, elle se prend, elle se gagne, elle se dispute. Justement, hier soir, Laval vibrait d'une drôle d'énergie, pas celle du brouhaha quotidien, non. Celle des voix qui s'élèvent, des espoirs qui se mêlent, des espoirs qui se croisent même. Ça parlait engagement, ça parlait justice, ça parlait de demain avec la ferveur de ceux qui savent que rien ne bouge si on ne le bouscule pas un peu. Alors j'ai tendu mon micro comme on tend une main, j'ai capté des éclats d'idées, des fragments d'histoire, des promesses de jours meilleurs. Et si l'égalité était avant tout une conversation, un chemin à tracer ensemble ? C'est, je crois bien, ce que nous racontent les rendez-vous de l'égalité organisés à Laval tout au long des mois de mars et avril. L'entretien aujourd'hui nous replongera un instant dans cette soirée. On écoutera Marie-Laure Lemay-Claverol, adjointe à l'éducation, l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations. Il y aura également Marie Tillois du Zoom qui nous dira quelques mots sur l'exposition Les ailes des jeux qui met en lumière la place des femmes dans le sport. Et puis nous échangerons aussi avec la Junior Association Échangeons le rôle qui organise une marche ce samedi 8 mars dans les rues de Laval. Et puis après être sorti du studio et avoir profité ensemble des rayons du soleil, on fera un autre détour par le pays d'Ancenis où le MAT comme Mon Relais Art Territoire fait vivre l'art contemporain en milieu rural. 3 expositions par an, des résidences, des rencontres, une dynamique culturelle portée par des bénévoles et une petite équipe engagée. C'est évidemment notre reportage Pensée Locale de la semaine, réalisé cette fois par Alternante FM. Mais avant tout ça, laissez-moi saluer ceux qui font aussi battre le cœur de cette émission. Maxime, Ronan, vous êtes toujours là, éveillé au grain et souriant. J'ai beaucoup de chance. Est-ce que ça va, les gars ?
Bonjour Margot, bonjour à tous. Oui, ça va très bien, merci.
Bonjour à tous, ça va très bien et toi Margot ?
Oui, il semblerait que ce soit bon. On est bien au complet. Bienvenue dans l'agité du local. À vous aussi qui nous écoutez, que vous soyez en train de siroter un café, manger un bout, filer au boulot ou juste là, poser quelque part. Eh bien, je peux vous le dire, vous êtes au bon endroit. Je suis Margot, on est ensemble pour un moment et un moment agréable, je vous le dis. Alors installez-vous bien. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi, tendre le micro et puis tendre l'oreille à ceux qui font vivre ces rendez-vous de l'égalité. L'agité du local sur l'autre radio. Marie-Laure Lemay-Claverol, vous êtes adjointe à l'éducation, l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations pour la ville de Laval. Et alors, durant ces 2 mois de mars et avril, ce sont les rendez-vous de l'égalité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Le mois de mars, c'est à la fois le 8 mars pour l'égalité et les droits des femmes, mais c'est aussi le mois de lutte contre les discriminations. Et pour nous, c'est important, ville de Laval, d'avoir un temps identifié, une visibilité aussi pour les partenaires, pour les agents, pour le travail qu'ils mènent au jour le jour au niveau de l'égalité. Donc il a été décidé de mettre en place ces rendez-vous. Donc l'année dernière, c'était un mois et cette année, on a décidé que ce serait le mois de mars et le mois d'avril qui seraient dédiés à la ville de Laval, au rendez-vous de l'égalité, avec un temps fort le 4 avril avec le Festival de l'égalité au Caron.
L'idée et l'important pour vous, c'était que ce soit quelque chose de festif, justement.
Oui, le festival, il a été pensé par l'ensemble des partenaires et les agents de la ville comme un moment de fête où on célèbre l'intérêt d'être ensemble, de construire ensemble avec une mise en valeur des différences comme une richesse plutôt qu'un problème.
Marie-Laure, quelles sont pour vous les priorités ou même les inquiétudes actuelles concernant toutes ces questions d'égalité ?
Oui, il est plus important que jamais, je pense, aujourd'hui, de se préoccuper de cette notion d'égalité et de droit à la différence, d'où qu'on vienne, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit le parcours qu'on ait pu avoir, qu'on soit un homme, une femme. On est vraiment sur une période où l'importance de défendre les droits, le droit des femmes, bien sûr, en premier, est plus que jamais essentielle. On voit bien que tous les mouvements masculinistes, une espèce d'intérêt pour une virilité qui serait comme un gage de puissance ou de vérité. Défendre le droit des femmes, défendre plus d'égalité, c'est devenu presque un combat de tous les jours pour s'assurer que ces droits-là ne soient pas effacés et qu'il n'y ait pas de recul de manière générale sur toute cette lutte pour les discriminations qui avait avancé. Et on sent, même plus qu'un coup d'arrêt, on sent parfois même un danger. Voilà.
Comment est-ce que vous expliquez ce retour en force de certains mouvements masculinistes en France et ailleurs d'ailleurs? On a l'impression d'une réponse au mouvement féministe qui finalement ne sépare pas et n'oppose pas les hommes et les femmes, si on regarde bien sûr les discours majoritaires de ce qu'est le féminisme aujourd'hui.
Alors je pense que là on est sur une vague féministe qui dure plus longtemps peut-être qu'à d'autres moments de l'histoire. La force aussi de cette vague féministe, c'est qu'elle touche le cinéma, elle touche un certain nombre de secteurs. On est un peu aidé aussi avec l'actualité, avec des procès assez emblématiques. Et puis je pense que la nouveauté de cette vague féministe, c'est qu'elle implique un certain nombre d'hommes qui prennent leur part, qui commencent à s'emparer de ces sujets-là, qui commencent à s'exprimer. Et je pense qu'on fait peur aux masculinistes à être ensemble, à être... Donc plus cette vague actuelle de féminisme est forte, plus en face, on a un côté, une réponse plus violente, en fait. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle.
Ce qui a pu être dit ce soir, c'est qu'en France, on n'est pas les plus mal lotis, mais on se rend compte, par contre, par exemple, que de l'autre côté de l'Atlantique, il se passe des choses, qu'il y a des discours très forts et des prises de position peut-être inquiétantes, en tout cas décomplexées. Pourquoi est-ce que nous, on doit s'alerter de ça ?
Alors, on n'est pas les plus mal lotis, mais on n'est pas non plus les meilleurs du monde. La patrie des droits de l'homme, parfois, se sent peut-être un peu meilleure que les autres sur des tas de sujets, notamment sur les droits humains. Et on voit aujourd'hui que beaucoup d'autres pays nous regardent un peu en disant il y a quand même quelques soucis en France. Et je pense qu'il faut être plein d'humilité. La France est un pays où les droits sont quand même au cœur du projet de société, mais ça reste fragile et ça avance peut-être moins vite que ça n'a avancé. Cette lutte, elle a tendance à avancer très doucement par rapport à des pays qui étaient plus éloignés que nous des droits humains, mais qui aujourd'hui nous ont largement dépassés et vont beaucoup, beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit regarder ce qui se passe ailleurs et voir un peu quels peuvent être nos modèles et arrêter peut-être de se croire comme les modèles du monde en termes de droits humains.
Merci Marie-Laure Lemay-Clavreul. Alors je vous le disais, ce mercredi 5 mars, c'est effectivement le lancement des rendez-vous de l'égalité, mais c'est également le vernissage d'une exposition installée dans le hall de l'hôtel de ville de Laval.
Je m'appelle Marie Tillois et je suis médiatrice scientifique au Zoom et référente de la mission Femmes et Sciences.
C'est le vernissage de l'exposition Les Ailes des Jeux qui est disponible jusqu'au 4 avril à l'hôtel de ville de Laval. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà de cette exposition ?
Alors c'est une exposition qui a été conçue par le Musée National du Sport et qui a pour objectif de redonner la visibilité aux femmes dans le domaine du sport parce qu'elles en ont été quasiment exclues et que petit à petit on arrive à un chemin vers la parité puisqu'on nous a parlé de parité en tout cas dans le nombre d'athlètes au JO de Paris 2024.
Donc là c'est une exposition sur 16 panneaux, il y en a 5 visibles, c'est ça ?
Oui, en fait, il y en a 14 à la base et nous, on a fait le choix d'en mettre 5 parce que l'espace est assez restreint. Mais l'exposition peut aussi être empruntée par tout un chacun. Donc, c'est aussi possible d'avoir l'intégralité de l'exposition à d'autres moments.
Qu'est-ce qu'elle nous raconte peut-être de l'évolution des femmes dans le sport et des combats encore à mener sur la place des femmes dans le sport ?
Elle nous raconte que les femmes ont dû se battre pour pouvoir avoir toute leur place. Déjà, au départ, elles n'avaient pas accès aux Jeux Olympiques, hein, mis en place par Pierre de Coubertin. Donc, il y a eu des Jeux qui ont été créés par Alice Mia pour les femmes. Et puis, petit à petit, quand elles ont eu accès aux Jeux Olympiques, il a fallu aussi se battre pour pouvoir avoir accès à toutes les disciplines, pour pouvoir porter des tenues qui soient décentes, pour ne pas avoir à effectuer des tests de féminité, donc se justifier. Voilà, donc le chemin, il a été long et je pense qu'il n'est pas totalement terminé dans toutes les disciplines d'ailleurs.
Justement, qu'est-ce qu'elle nous raconte aussi peut-être des combats encore à mener sur la place des femmes dans le sport de haut niveau ?
C'est pas forcément très développé dans l'exposition, mais il y a aussi toute la partie des femmes qui, pour la plupart, ne sont pas professionnelles, elles ne peuvent pas vivre de leur métier. Il y a le combat qui est évoqué aussi sur la maternité, voilà, des marques de sport qui soutiennent des athlètes et puis au moment où elles annoncent leur grossesse, qui se retirent. Ça, c'est un combat qui est encore à mener aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est deux auxquels je pense, mais il y en a d'autres qui sont évoqués sur voilà, l'identité de genre aussi, des femmes qui peuvent enfin l'afficher, mais qui ne se sentent pas toujours libres de le faire.
Vous posez aussi la question s'il est évoqué les coulisses du sport féminin, comme par exemple les dirigeantes, les entraîneuses ou encore les arbitres.
En tout cas, dans les panneaux qu'on a sélectionnés, non, ça n'est pas abordé. Mais en effet, il y a encore du travail de ce point de vue-là.
À qui est-ce qu'elle s'adresse cette exposition ? Est-ce que c'est vraiment au grand public ? Est-ce qu'on peut venir aussi avec des enfants ? Est-ce qu'il y a un parti pris pédagogique et interactif ?
Alors, pour être tout à fait honnête, le vocabulaire est assez soutenu et assez compliqué. Donc moi, je le conseille plutôt à partir de l'adolescence et aux adultes. Après, rien n'empêche de venir avec des enfants, mais du coup, d'adapter et d'expliquer aux enfants. Voilà, il va falloir une médiation d'un adulte ou d'une adulte pour les jeunes enfants. C'est vrai que le 17 mars, il y a le réveil musculaire proposé par le service des sports. Il y aura une petite visite animée de l'exposition, mais surtout, je viendrai avec des jeux qui permettront de... Voilà, une petite timeline historique pour essayer de remettre dans l'ordre chronologique des événements en lien avec les femmes et le sport. Peut-être un petit jeu action-vérité, voilà, qui permet aussi de se mettre en action. Donc, il ne faut pas hésiter à venir le 17 mars.
Alors, les rendez-vous de l'égalité, c'est évidemment un programme riche et varié, disponible sur le site internet de la ville de Laval. Mais pour terminer, j'avais envie de faire un dernier focus avec la Junior Association. Échangeons nos rôles.
Bonjour, moi je m'appelle Jules Pinson. Je suis en deuxième année de licence histoire à Laval et je suis membre de l'association ENR Échangeons nos rôles qui lutte contre les discriminations de genre mais aussi plus généralement contre les discriminations contre les identités sexuelles et l'orientation sexuelle.
Je suis Juliette Leroy, je suis en première au lycée L'Immaculée Conception et je suis membre de la même asso que Jules.
Vous organisez une marche le 8 mars à 19h que vous appelez Rue au féminin. Qu'est-ce que c'est ?
Le but, en fait, c'est vraiment de lutter contre le harcèlement de rue. Harcèlement de rue qui est un sujet encore trop invisibilisé. Et le but, c'est de vraiment faire une marche pour que les femmes se réapproprient l'espace public.
On a fait le départ à la gare parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, la gare, c'est un symbole un peu d'ouverture au monde. Et comme on a souvent peur d'aller vers la gare, on s'est dit que c'était un bon départ.
Et le but, c'était d'aller justement vers ces coins un peu plus chauds, on va dire, de Laval, pour justement aller de la gare à la mairie. La mairie, lieu symbolique, la maison des Lavallois, pour justement après être accueilli, puis boire un pot, un petit chocolat chaud, quoi.
Et alors, ce qui est très très chouette, c'est qu'en fait, cette marche est donc ponctuée de témoignages. Comment est-ce que vous les avez recueillis ?
C'était sur Instagram. On a posté une annonce, en fait, où on demandait des témoignages. On en a parlé après de notre côté. Moi, je sais que j'ai des amis qui ont témoigné.
Quel type de témoignages vous avez pu recueillir ?
Alors, en fait, on a reçu tout genre. Ça allait des petits témoignages à des sifflements, à des, on va dire, des agressions un peu plus graves où on va avoir un toucher non consenti, où on va avoir quelqu'un qui va être plus agressif à demander justement l'habitat de la personne, le téléphone de la femme et quelque chose d'insistant. Et en fait, on a reçu tout ça et ça pouvait être des témoignages très très longs, douloureux, à des témoignages beaucoup plus simples. Et justement, ce qui a été très difficile, c'était de trier. Vous allez voir, vous allez découvrir, je peux faire un petit spoil, mais on va avoir des emplacements stratégiques avec une pancarte marquée « Ici, une femme s'est fait siffler, ici, une femme s'est fait suivre », justement pour que ce soit choc. Et justement, ces endroits sont stratégiques parce que c'est vraiment des endroits où des femmes ont été sifflées, suivies, touchées, non consenties, etc.
Quand vous avez reçu ces témoignages, est-ce qu'il y avait de l'étonnement ou finalement, c'est des choses que vous connaissez, dont vous avez beaucoup entendu parler ou que des proches ont vécu?
C'est une réalité en fait, il y a une Française sur quatre qui a déjà subi de l'harcèlement de rue. C'est quelque chose qui se connaît, que tout le monde connaît. C'est ça qui est horrible parce que c'est vraiment quelque chose qui est entré dans notre quotidien. Un sifflement, on n'y fait pas attention, mais c'est quand même du harcèlement de rue. C'est de l'objectivation sexuelle et c'est quelque chose à bannir.
Dans mon groupe de copines, on doit être 9. Il y en a au moins 7 qui ont déjà été embêtées par un garçon. Je sais que moi j'en ai été victime aussi, donc c'est vraiment très commun, mais ça devrait vraiment pas l'être, et c'est pour ça aussi qu'on fait cette marche.
Aujourd'hui, on en entend beaucoup plus parler, on a l'impression que les gens sont plus sensibilisés. Est-ce que toutes les générations sont autant sensibilisées à ça, ou est-ce que finalement ça reste quelque chose peut-être qui émerge plus chez les jeunes ?
C'est vraiment quelque chose générationnel. On voit bien dans les années 50, c'était l'Amérique, on voit bien toutes les comédies musicales où les Américains ils sifflaient. On sifflait les femmes, la femme c'était un objet sexuel, elle était à la maison. C'est vraiment avant les acquis sociaux de la femme qu'il y avait justement cette forme d'agression primaire sexuelle. Enfin, donc vraiment c'est quelque chose de générationnel. Maintenant, je pense que notre génération elle est beaucoup plus informée, elle veut pas reproduire les mêmes modèles, j'espère en tout cas, de leurs parents et de grands-parents avant eux. Donc je pense que c'est générationnel plus.
On est aussi, nous, jeunes, plus au courant que c'est pas normal, et c'est ça aussi qu'il faut relayer aux autres personnes.
L'agité du local sur l'autre radio.
Elle chante les failles, les blessures qu'on ne montre pas. Safia Nolin, c'est une voix sans phare qui dit l'inconfort d'être soi dans un monde qui classe, juge et exclut. Elle sera sur la scène du 6x4 le 13 avril dans le cadre des rendez-vous de l'égalité. On écoute ensemble Miroir, un titre qui reflète sans détour ce que l'on préfère souvent cacher.
Je m'excuse de mon corps pour mon cœur. Je sais que j'ai changé le ton, changé le fond de ma tête. J'ai oublié de te mordre les doigts pour te montrer quoi ne pas taire. Je m'excuse de mon cœur pour mon cœur. Changer le temps.
dans la rue, on peut plus avoir la paix maintenant.
Alors... Vous êtes du quartier ?
Silence ! Chaque bruit compte dans le silence. Un oiseau qui s'éveille, une branche qui craque, un chevreuil qui s'enfuit.
Je me demande, et si on se confie mieux à quelqu'un qu'on connaît pas bien ?
Un rhume qui s'invite sans prévenir, une toux qui s'accroche comme un mauvais refrain, ces petites maladies du quotidien qu'on traîne en râlant et qu'on partage aussi, mine de rien. C'est le moment du micro-trottoir de la semaine et c'est Adèle qui a tendu son micro au Lavallois pour savoir comment ils vivent ces petits bobos. Entre anecdotes, remèdes de grand-mère et philosophie de l'aspirine, on écoute ce que ça vous inspire.
Est-ce que ça vous arrive souvent de tomber malade ?
Très souvent.
Pas tellement.
Pas souvent, mais bon, depuis quelques temps, là, c'est vrai qu'on a été quand même un petit peu enrhumé, comme beaucoup de gens.
Non plus, je tombe rarement malade.
Quand je suis malade, je tombe bien malade.
On s'était fait vacciner contre la grippe, et donc ça a peut-être aidé aussi.
Mais quand vous êtes malade, est-ce que vous avez une petite routine à vous ? Est-ce que vous chouchoutez ? Ou est-ce que, au contraire, vous avez tendance à vous donner un petit coup de fouet pour repartir ?
Je vais marcher. J'adore marcher.
Pareil, j'essaye de garder une activité plus ou moins normale. Donc après, c'est surtout plus en protégeant les autres où je vais mettre un masque si je suis un peu grippé.
Moi, en général, je vais plutôt essayer de me bouger parce que je sais que si je reste chez moi, ça ne va pas s'améliorer beaucoup.
En vrai, je me bouge, je suis motivée, je fais du sport.
Est-ce que vous avez des petites recettes de grand-mère à nous partager ?
Oui, le lait, miel et avec un peu de citron.
L'huile essentielle. Tout ce qui est à base de plantes, menthe poivrée notamment, ravintsara.
Quand j'ai les yeux gonflés, je passe un glaçon autour de l'œil.
Peut-être un petit grog le soir.
Ben, venant de l'Est, on a le Jägerthé, donc c'est du Jägermeister dans une tisane bouillante et ça débouche bien les bronches, ça fait du bien.
Quand un de vos proches est malade, est-ce que vous avez des petites attentions particulières ?
Ça va être plutôt de lui amener quelque chose qui va lui faire plaisir ou lui préparer un petit plat qui va lui faire plaisir.
Un petit coup de main, surtout s'il est fatigué. Est-ce que tu as besoin qu'on te ramène quelque chose, qu'on t'aide à faire quelque chose ? Et ça fait toujours du bien moral.
Je reste avec la personne jusqu'à ce que ça aille mieux.
Alors là, je contacte toutes mes copines qui sont infirmières ou copains médecins. Et oui, je fais très attention à mes proches.
L'agité du local sur l'autre radio.
L'art contemporain en milieu rural. Il existe en Loire-Atlantique à égale distance de Nantes et d'Angers une association porte-drapeau de l'art contemporain en milieu rural, le MAT. Comme Mon Relais Art Territoire, cette structure est issue de la fusion en janvier 2020 de deux lieux d'exposition, la Chapelle des Ursulines à Ancenis-Saint-Géréon et le Centre d'art contemporain de Mon Relais. Alors le MAT accueille en principe trois expositions par an, ainsi que des résidences, des ateliers de pratique artistique, des rencontres et des conférences. Il investit sur son territoire temporairement des lieux non conventionnels, comme par exemple un EHPAD ou une salle municipale. Le MAT est porté par une équipe de bénévoles et emploie 3 salariés. Alors c'est notre reportage Pensée locale de la semaine et c'est Michel Sourget d'Alternante FM qui a tendu son micro à Isabelle Tellier, directrice de la programmation, et Jennifer Gobert, médiatrice. Écoutez.
Pensée locale. Spécial forum Entreprendre dans la culture en Pays de la Loire.
Il existe en Loire-Atlantique, à égale distance de Nantes et d'Angers, une structure associative porte-drapeau de l'art contemporain en milieu rural, le MA, Montrelais Art Territoire, issu de la fusion en janvier 2020 de deux lieux d'exposition, la Chapelle des Ursulines à Ancenis-Saint-Géréon et le Centre d'art contemporain de Montrelais. Le MA accueille en principe 3 expositions par an, ainsi que des résidences, des ateliers de pratique artistique, des rencontres et des conférences, investit sur son territoire temporairement des lieux non conventionnels, comme par exemple un EHPAD, une salle municipale. Le MA, porté par une équipe de bénévoles, emploie 3 salariés, Jennifer Gobert, Antoine Dallègre, les médiatrices médiateurs culturels, Isabelle Tellier, la directrice de la programmation. Cette dernière nous conduit de la gare d'Ancenis à l'ancien presbytère de Montrelais, un des 2 sites d'exposition permanent du MA. Montrelais, c'est...
C'est une petite commune de 850 habitants qui est située au bord de la Loire.
Et c'est pas un hasard si on va à Montrelais.
On est un centre d'art qui est une association qui fait un projet sur l'ensemble du pays d'Ancenis. donc sur les 20 communes et on fonctionne, enfin, on travaille autour de l'eau. Le territoire, géographiquement, en fait, c'est depuis la Loire et on remonte vers le nord,
Isabelle
jusqu'au
Tellier.
Bord de l'Erdre, ce qu'on appelle l'Erdre sauvage, à partir de Jouy-sur-Erdre, Nord-sur-Erdre, l'Erdre est navigable. Et avant, sur le pays d'Ancenis, elle est plutôt un petit cours d'eau. Pour aller d'un point à un autre du territoire, donc de la commune de Montrelais, par exemple, qui se situe au bord de la Loire, et donc plutôt au sud-est du pays d'Ancenis, à Jouy-sur-Erdre, qui est au nord, il faut 40 minutes... 45 minutes de voiture, à peu près autant de kilomètres. C'est un territoire qui est quand même assez grand, et donc on ne peut pas être partout à la fois. On ne peut pas être sur l'ensemble du pays d'Ancenis simultanément, d'où cette idée d'un projet qui est un programme au fil des saisons et des territoires, fonctionne par onde, et on est sur une zone, on se déplace sur une autre zone. On a un peu découpé le pays d'Ancenis en 4 zones, on va dire. 2 qui sont près de la Loire et donc au sud du pays d'Ancenis, et 2 qui sont au nord, et on essaie d'aller au moins sur 3 zones par an.
Vous avez choisi de remonter les fleuves et les rivières. D'une certaine manière, vous vous posez à contre-courant.
Bah, je ne sais pas contre-courant de quoi. En tout cas, je ne sais pas si c'est à contre-courant, mais il y a cette conviction qui existe ici et qui est historique, c'est que bah, finalement, ce n'est pas parce qu'on est dans un territoire rural qu'on n'a pas envie d'avoir de la culture à proximité. Pour moi, c'est peut-être plutôt s'appuyer sur l'histoire du lieu, enfin les bénévoles. Et là, sur ce territoire, il y a des tas d'idées qui fourmillent. Et finalement, on n'a pas besoin d'attendre les grandes villes pour en fait être servi, quoi, et avoir la culture à proximité de chez soi. Donc, c'est peut-être pas à contre-courant, c'est plutôt rendre visible ce qui existe déjà, parce qu'il y a des tas d'initiatives. Enfin, moi, ça fait 5 ans que je travaille au MAS. Voilà, je découvre des tas de choses et une richesse incroyable sur ce territoire. Enfin, voilà, une richesse humaine, une richesse de projet.
Ici, on est vraiment dans un territoire qui est très engagé. Moi, je viens plutôt de la région parisienne et quand j'ai découvert ici...
Jennifer Gobert.
Ouais, c'est des gens qui donnent beaucoup de temps pour tout type de structure. Nous, on est au niveau de la culture, mais il y a aussi sportive, etc. Sociale, engagée, comme le Resto du Cœur, etc. C'est des gens vraiment qui veulent qu'il y ait des choses qui se passent dans leur territoire et qui vraiment sont, oui, je répète, engagés. Je trouve que c'est une valeur qui est hyper chouette.
À Montrelais, il n'y a pas de commerce. Donc l'activité à l'année qui est existe, c'est le centre d'art. C'est le lieu le plus ouvert, voilà, en dehors de la mairie évidemment, qui est un lieu d'accueil. Mais voilà, c'est vraiment l'idée qu'on participe au dynamisme du territoire. Après, évidemment, on touche une proportion de la population qu'on aimerait toujours plus nombreuse, mais quand même, quand on voit qu'on arrive à faire un vernissage à 120 personnes ici, alors qu'il y a entre 800 et 850 habitants, on se dit que c'est quand même pas mal.
Merci à Isabelle Tellier et à Jennifer Gobert pour leur libre participation à ce programme consacré au MAS, le Centre d'art contemporain Montrelais Art Territoire.
C'était Pensée locale, un enjeu de société.
Une émission réalisée dans le cadre du forum Entreprendre dans la culture en Pays de la Loire, le 7 mars 2025, dans les Halles 1 et 2, sur l'île de Nantes.
Un reportage de Michel Sourget pour Alternante FM.
On termine cette émission, mais avant ça, une pause, puisqu'il n'y en a jamais de trop. Alors qu'est-ce qu'on écoute, Ronan ?
Aujourd'hui, je vous propose un mélange onctueux entre rap et mélodie. Tout de suite, on écoute le titre « Il existe un endroit » du rappeur émergent Beucar, accompagné de la douce voix suave de la chanteuse Blandine.
soleil, j'ai regardé le soleil s'éteindre. Manque de sommeil ces temps-ci. J'ai observé la seule fille qui restait danser. Elle combattait quelque chose, ça se voyait dans ses yeux. Les passants la laissent vivre, vivre, ivre sous les lueurs d'un bar qui ne demande qu'à être vive. Vive quand les roues du métro ne roulent plus. Aussi vite cette fille m'a piqué comme une vive. Alors j'ai fumé une kill, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et j'ai senti l'alcool monter. Je me suis dit c'est maintenant ou jamais. À chaque fois les excuses me rattrapent. J'ai toujours du mal à les contrer. Ouais. Donc je suis resté là fixe, immobile, attiré sur ma barrette de nicotine. Au diable, j'en ferai une fixette vu que cette fille a presque un doubliable. Chez moi, c'est pas l'endroit parfait pour un bain de foule. Les plages pour les petits du Tirexon, c'est un terrain de foot. On a un frère qui a besoin de nous. Alors on est là, ça fera l'affaire jusqu'au lendemain. Au moins, le temps d'un instant, d'un moment. Retrouver le moment, lui. Celui qui a appelé pas maman. J'ai réglé pas une embrouille sans en venir aux mains. La vie lui a mis une claque, une deuxième, une troisième, une quatrième. Comme le nombre de verres encaissés la nuit dernière. À l'heure où les gens les plus tristes et les plus ternières. Mais ce soir j'y retournerai pour revoir cette fille encore plus belle qu'hier. Juste pour la voir pour de vrai. Elle avait disparu, des meufs comme ça y'en a pas disparu.
J'étais en bas de chez moi, j'y ai quelques fois traîné les pieds. Assez pour y avoir perdu le sommeil. Assez pour y avoir aidé des milliers.
Il existe un endroit, une des façons solides.
L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Marie-Laure Lemay-Clavreul, Marie Tillois et puis Jules et Juliette d'avoir répondu à mes questions. Et merci à vous deux, Maxime et Ronan. Alors, notre émission s'arrête ici, mais ça continue sur l'autre radio.
Et oui, Margot, la soirée commence à 19h avec l'émission Le Grand V.
Aujourd'hui, au travers de la variété, Delphine et Valentin rendent hommage aux quatre éléments, l'eau, la terre, le feu et le vent.
Ensuite, on écoute ensemble une émission spéciale à partir de 21h.
Oui Maxime, puisque ce sont les 20 ans de la troupe de théâtre d'improvisation L'Attila. Au programme, une session d'impro et c'est une édition spéciale anniversaire bien sûr. Ce ne sera pas moins de 2 heures d'émission en public et dans la bonne humeur surtout.
La bonne humeur résume bien notre radio.
Merci Ronan et merci Maxime.
Merci Margot.
De rien.
Moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local. Nous serons avec Corinne Bonnet, autrice de l'ouvrage Corps à ciel ouvert, qui vient nous parler de son histoire avec le cancer, mais aussi d'écriture et d'une lecture spectacle qu'elle partage aujourd'hui avec le public. D'ici là, prenez soin des mots que vous offrez, comme de ceux que vous recevez. La bienveillance est une petite graine qui pousse toujours quelque part, j'en suis convaincue. Et oui, s'il vous plaît, faites-le bien.
Bon bah c'est fini.
Tout de même, ça passe vite.